Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence, bonjour à tous. Nouveau rendez-vous avec les musiciens qui participent au Festival de Rocamadour 2024. Et dans la programmation, depuis plusieurs années, il y a ce qu'on appelle les moments d'orgue. Ce sont des mini-concerts qui ont lieu presque chaque jour à midi sur le grand orgue de la Basilique Saint-Sauveur. Et lors de cette 19e édition, ils sont donnés par le jeune organiste italien Nicola Procaccini. J'ai tenu à lui donner la parole et il est mon invité aujourd'hui. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions en français, qui n'est pas votre langue maternelle bien sûr, mais que vous parlez déjà très bien, puisque vous avez fait une partie de vos études musicales dans notre pays, notamment au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir.
Nous allons revenir d'ailleurs sur votre formation de musicien, mais je voudrais d'abord qu'on évoque avec vous votre passion pour l'orgue, un instrument qui tient une place à part dans la musique dite savante. Est-ce qu'il est très pratiqué en Italie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'orgues et d'organistes dans votre patrie d'origine?
Alors, c'est une question intéressante. L'orgue en Italie est pratiqué plutôt comme un instrument historique. Voilà, on a restauré beaucoup d'instruments historiques dans ma région et ce sont ces instruments anciens qui m'ont amené à l'orgue.
Voilà, donc c'est la beauté de ces instruments, le fait de les voir dans les églises. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'organistes dans votre pays? Est-ce que c'est un instrument qui est très pratiqué?
Dans ma région, c'était surtout la classe d'un conservatoire qui est un réseau régional, plutôt petit. Et il y avait des élèves amateurs aussi, mais aussi des jeunes enfants qui avaient découvert l'orgue un peu comme moi à la messe. L'orgue est quand même pas mal pratiqué dans des villes plus grandes du nord de l'Italie, notamment où il y a aussi des festivals internationaux intéressants. Je pense, pour exemple, au festival de Bergamo. Mais on a une tradition un peu moins développée qu'en France ou en Allemagne parce que le 19e siècle, le 20e siècle, c'est une époque un peu de décadence de la musique sacrée en Italie et c'est plutôt l'opéra qui a pris le relais. Et pour cette raison, on vit un peu moins d'une tradition récente, romantique du 20e siècle, mais tous les mouvements de restauration d'orgues historiques qu'on a eu à la fin du XXe siècle a amené à une grande connaissance de l'orgue historique, une passion pour ce monde qui est un peu moins connu à l'étranger quand même, parce que ce sont des instruments sur lesquels on ne peut pas jouer un très grand répertoire, parce que c'est des instruments qui ont des petits claviers, des 45 notes, qui sont basés sur une composition un peu spéciale, qui permet un répertoire plus limité.
Personnellement, comment êtes-vous venu à l'orgue? En général, ce n'est pas un instrument qu'on pratique d'emblée lorsqu'on est jeune. On y vient par un autre instrument. Souvent, c'est le piano, mais pas toujours. Alors, vous y êtes venu par l'intermédiaire de quel autre instrument?
Alors, moi, j'ai commencé la musique par l'accordéon.
Comme Thierry Esquèche.
Oui, effectivement. Et c'est un instrument qui est traditionnel dans ma région d'origine, mais pas seulement dans le milieu de la musique populaire, mais aussi dans celui de la musique classique, parce que c'est à côté de chez moi qu'ils sont produits le meilleur accordéon pour la musique classique, genre mes collègues du Conservatoire de Paris utilisaient des accordéons qui venaient de chez moi. Et donc j'avais beaucoup d'occasions d'entendre l'accordéon dans des festivités populaires plutôt.
Donc, l'accordéon d'abord, et puis l'orgue est venu. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cet instrument? Est-ce que c'est sa beauté, sa stature, évidemment, colossale? Est-ce que c'est le fait que ce soit un instrument orchestre sur lequel on peut tout jouer? Ou est-ce que c'est le fait aussi qu'il soit dans les églises, donc dans des édifices magnifiques avec l'ambiance du sacré?
Voilà, c'était la sonorité, je dirais, qui m'a fasciné. Et aussi la forme de l'instrument, la façade, le prospect, les tuyaux, le fait que tu ne vois pas les tuyaux petits qui sont à l'intérieur. Et j'ai découvert l'orgue quand même au même temps que l'accordéon, Et aussi un peu de la même manière, parce que comme j'écoutais l'accordéon pendant les festivités populaires, j'écoutais l'orgue à la messe, donc une musique qui est donnée pour les gens en dehors des concerts, juste comme ça, gratuite. Mais j'ai commencé par l'accordéon parce que c'était évidemment plus pratique pour un
C'est
enfant.
plus facile à
Et
trimballer qu'un orgue, c'est
oui,
sûr.
exactement.
Quelle formation vous avez suivie donc dans votre cursus pour apprendre l'orgue? D'abord en Italie, puis en France, en Allemagne aussi.
Oui.
Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors, c'est la formation que j'ai eue d'abord en Italie, c'est lié aux instruments historiques que j'ai découverts d'abord, qui m'ont amené à une passion pour un répertoire qui est un peu peut-être moins connu, moins populaire, mais c'était les répertoires vraiment anciens. J'avais, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, j'avais une grande passion pour la musique des gens comme Frescobaldi, des choses que j'écoutais ou des enregistrements de cette musique ancienne et j'adorais la sonorité des instruments anciens qui me fascinaient avec leur lumière et avec certaines sévérités peut-être en même temps. Et quand j'étais en Italie, j'ai surtout pratiqué la musique ancienne et je fais aussi beaucoup de clavecin. Après, j'ai voulu déménager en Allemagne, à Hambourg, pour étudier avec un professeur qui est spécialiste de la musique de Bach. Une musique que je ne pouvais pas trop pratiquer chez moi parce qu'on n'avait pas de grands instruments pour jouer cette musique. Donc j'avais vraiment les mythes des grands instruments historiques de l'Allemagne sur lesquels on peut jouer la musique de Bach. Et ce professeur s'appelle Wolfgang Zerrer et j'ai eu la chance d'étudier avec lui pendant 4 ans à Hambourg. Voilà.
Et c'est après que vous êtes venu en France?
Oui, exactement. Après avoir passé 4 ans en Allemagne, je voulais absolument découvrir l'orgue français et me plonger dans le répertoire et dans la culture immense de l'orgue français, surtout romantique du XXe siècle. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'essayer le concours d'entrée pour le master au Conservatoire de Paris. Et c'est là que j'ai eu la chance de travailler d'abord avec Michel Bouvard, Olivier Latry, et après, pendant ma dernière année, aussi un petit peu avec Thomas Hospital.
Que des grands.
Et oui, absolument.
Alors parmi eux, vous l'avez cité, il y a le Toulousain Michel
Oui,
Bouvard.
oui.
Qu'est-ce qui vous a apporté, Michel Bouvard?
Alors, Michel Bouvard m'a apporté une façon très authentique de traiter l'instrument symphonique historique français, une façon de jouer de façon très chantant, avec un legato vocal qui m'a vraiment changé pour ce qui concerne surtout l'interprétation de la musique de César Franck, mais aussi beaucoup de liberté dans l'interprétation de la musique de Jean Alain et d'Olivier Messiaen, mais toujours avec une attention pour la portée des mélodies, pour la portée du chant, mais aussi avec très grande cohérence. Voilà, pas seulement mélodie, mais aussi structure.
On parlait de Michel
Ouais.
Bouvard et vous avez été pendant quelques mois à Toulouse, vous êtes
Oui,
venu étudier à Toulouse?
exactement. C'était après ma licence en Allemagne. J'ai passé quelques mois à Toulouse, seulement 3 mois, parce qu'après on a eu voilà, il y avait la Covid qui a éclaté et le confinement. Et là, j'ai quitté la France. Voilà. Mais juste avant, j'ai pu faire le concours pour le Conservatoire de Paris, qui était le mois avant le premier confinement.
Et donc vous êtes après parti à Paris pour
Oui.
poursuivre vos études,
Oui,
donc avec Olivier
exactement.
Latry,
Oui,
puis Thomas Hospital. Alors
oui.
qu'est-ce qui vous a emporté ces deux-là? Encore
Alors,
autre chose, j'imagine.
absolument. Bah, Olivier Latry, c'était un rigueur absolu pour la partition et aussi pour tout ce qui concerne l'interprétation, toute la culture du son, de l'instrument et une grande clarté. Et aussi une utilisation du poids pour faire sonner l'instrument dans toutes ses possibilités. Une école de l'orgue dans tous les sens, technique et musical et aussi historique, culturel, voilà, de façon absolue.
Et donc
Oui,
Thomas
une
Hospital, pour
expérience.
finir, vous
Et
avez...
Thomas Hospital, c'était l'énergie et aussi une grande attention aux structures des mélodies et en fonction de l'harmonie aussi, surtout sur la musique de Franck.
Est-ce que vous avez un répertoire de prédilection pour l'orgue ou est-ce que vous aimez autant le répertoire baroque, le répertoire romantique ou le répertoire contemporain?
Exactement ça, j'ai vécu des phases. Quand j'étais plus petit, je pouvais écouter que de la musique ancienne, baroque, de la Renaissance. Et après, d'abord avec mon professeur d'Hambourg, j'ai commencé à aussi, heureusement, à découvrir tous les répertoires romantiques. Et après, à Paris, voilà, j'ai ouvert la porte du monde immense. Et maintenant, j'essaye de poursuivre un peu sur ces chemins de découverte de tous les répertoires.
Sans
J'essaye.
vous fermer aucune porte,
Oui, c'est important, voilà. Parce
d'explorer tous les répertoires.
qu'avant, en fait, j'ai fermé beaucoup de portes. Après, avec l'expérience,
Je
j'ai
pense que ça
découvert
fait
que c'est
partie du
important de,
parcours,
voilà, de
voilà,
chacun.
d'un jeune musicien bah, qui, voilà, qui découvre souvent grâce à ses maîtres aussi. Alors je disais, vous êtes un jeune musicien, mais vous avez déjà enregistré un premier CD sous le label Rocamadour Musique Sacrée, un disque paru il y a quelques mois qui a pour titre Reflet sur l'air. Nous allons en parler avec vous, mais avant cela, on va en écouter un extrait. Vous jouez ici la toccata de la suite opus 5 de Maurice Duruflé. La toccata de la suite opus 5 de Maurice Duruflé, jouée par Nicolas Procaccini, sur l'orgue Puget de l'église Notre-Dame de la Dalbade à Toulouse. On revient à Toulouse, extrait du CD Reflet sur l'air, paru sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Comment est né ce projet d'enregistrement avec le label du Festival de Rocamadour? Qui vous a contacté? Est-ce que vous avez été sélectionné? Comment ça s'est passé?
Alors, ce projet magnifique dont je garde un souvenir incroyable a été un partenariat entre le Conservatoire de Paris et le label Rocamadour. On devait présenter un projet, un programme, on devait écrire ses motivations pour le projet et on a été sélectionné. C'était comme ça.
Donc c'est vous qui avez été sélectionné parmi
Oui,
les autres étudiants du CNSM.
c'est un projet qui concerne seulement les dernières années, pas tous les étudiants, mais ceux qui sont en dernières années. C'est un couronnement un peu du parcours d'études conservatoire.
Quelles œuvres et quels compositeurs trouve-t-on sur ce CD?
Alors,
Est-ce que c'est vous qui avez vraiment
oui.
complètement choisi le programme?
Oui, c'est moi qui je l'avais choisi. D'abord, le premier CD du label qui avait été enregistré par un collègue, par Quentin Duverdier, était consacré à la musique ancienne. Alors, j'ai choisi d'enregistrer des œuvres qui sont un peu une pierre angulaire du répertoire français du XXe siècle, qui sont extrêmement importantes. Et je voulais, de cette manière-là, couronner ma période au Conservatoire de Paris et avoir la chance d'enregistrer tout ça que j'avais appris par mes maîtres au conservatoire et voilà, restituer un peu aussi mon interprétation sur un instrument très spécial aussi, un orgue romantique aux couleurs exceptionnelles.
Le Puget de
Oui.
l'église Notre-Dame de
Alors.
l'Adalbade à Toulouse. Donc les compositeurs que l'on trouve, il y a
Oui.
Maurice Duruflé
Oui.
et sa suite
Je...
opus 5 et les deux autres.
Les trois danses de Jeanne Allain et l'ascension d'Olivier Messiaen, des cycles qui ont changé l'histoire de la musique d'orgue.
Pourquoi ce titre, Reflet sur l'air, qui est très poétique, hein?
Oui, c'est un peu l'idée de reflet des lumières qu'on voit dans les églises françaises à cause des couleurs
Des
des
vitraux.
vitraux, exactement. Parce que j'ai lu des extraits de Olivier Messiaen sur les couleurs harmoniques de sa musique. Et c'est lui-même qui dit que les couleurs harmoniques de sa musique viennent aussi d'une fascination qu'il avait pour les reflets des lumières à travers des vitraux. Et je trouve que c'est quelque chose de très pertinent pour la musique française, parce que parfois c'est des harmonies qui on a l'impression de voir et pas seulement de sentir, qui vivent vraiment dans l'acoustique de l'église. Et c'est aussi l'expérience sonore que j'ai eue dans l'église de l'Adalbad, avec son acoustique exceptionnelle. Et là, dès que j'ai fait sonner l'orgue en jouant cette musique, j'avais vraiment l'impression que les sons vibrent presque, comme les reflets des lumières, et comme s'il y avait un vent, en fait, un vent musical, un vent sonore, qui est aussi le vent de l'orgue, parce que l'orgue de l'Adalbad a une mécanique et un vent vraiment très sensible, une machine Barker parfaite, magnifique. Donc c'est un peu l'idée de ces vents qui est à la fois les vents concrets de l'orgue, mais aussi les vents sonores qui amènent le son dans l'église et le fait vibrer un peu comme la lumière.
Est-ce que l'exercice de l'enregistrement, c'est la première fois que vous vous y confrontiez, vous a plu ou est-ce que vous préférez jouer en public?
C'est un très bel exercice, je trouve. C'est une épreuve à la fois, mais c'est aussi quelque chose qu'on prépare avant, bien sûr. Et donc, on essaye le maximum. C'est un moment, on se sent un peu privilégié aussi parce que on travaille avec une équipe. Et dans le cas de notre CD, avec le label Akomadour, c'était une équipe fantastique. Avec aussi des collègues, des amis qui tirent les jeux. Donc, c'est une expérience très, très formative dont je suis très remerciant d'avoir fait partie.
Vous avez le
Voilà.
sentiment que ça vous a fait progresser
Oui, absolument,
dans votre jeu, dans
absolument.
votre appréhension de
Oui,
la musique
absolument.
aussi.
Après, si on écoute les résultats, il y a toujours quelque chose qui ne plaît pas.
Ah, ça c'est la
Mais
question que j'allais vous poser.
ça, c'est
Est-ce que
normal.
vous êtes content du résultat? J'imagine que oui quand même, mais est-ce que vous êtes aussi quelqu'un de très perfectionniste qui est toujours insatisfait, jamais content de lui?
Alors, je suis très content du résultat et du travail qu'on a fait ensemble avec l'équipe et de l'épreuve qu'on a soutenue. Tout le monde, pas seulement moi. Et je suis content de tout ça que j'ai appris en faisant cet enregistrement. Oui.
Nous allons écouter un second extrait de ce CD, Reflet sur l'air, avec une œuvre d'Olivier Messiaen intitulée L'Ascension. C'est la première pièce, Majesté du Christ.
Thank you.
L'Ascension d'Olivier Messiaen et sa première pièce, Majesté du Christ, jouée par Nicola Procaccini, un extrait du CD Reflet sur l'air paru sous le label Rocamadour Musique Sacrée, Les Moments d'Orgue. On y vient, c'est donc chaque jour à midi à la Basilique Saint-Sauveur, sauf le dimanche parce qu'il y a la messe. Ce sont des concerts de quel format? C'est une demi-heure à peu près?
Oui, à peu près une demi-heure.
Et est-ce que vous jouez toujours le même programme plus ou moins chaque jour ou est-ce que vous improvisez ou vous changez les œuvres selon votre inspiration, peut-être aussi selon les réactions du public?
Alors, maintenant, j'ai joué deux moments d'orgue et j'ai fait un programme consacré plutôt à deux œuvres de Bach. Et les jours après, je me suis un peu laissé inspirer par cette basilique solide en pierre arrachée à la roche. Du coup, j'ai essayé de la musique plus ancienne, musique polyphonique aussi, et je vais alterner le programme dans les prochains jours. Bah, vous avez parlé de l'improvisation, ça pourrait être une idée intéressante.
Est-ce que vous annoncez, est-ce que vous commentez les pièces que vous jouez pour que le public sache ce qu'il va entendre?
Oui, c'est un format plutôt informel pendant lequel on prend un peu de la relation avec le public parce que j'explique les œuvres, je parle, j'invite aussi le public à participer aux concerts du festival qui vont suivre. Oui, je présente les pièces, il y a pas un programme écrit. Et ça me fait faire aussi un peu un exercice de langue française.
Alors précisons que c'est gratuit, que les gens s'arrêtent en fait pour vous écouter mm-hmm. lorsqu'ils visitent la basilique, ou ils entendent l'orgue qui sort là comme ça lorsqu'ils sont sur le parvis, qui se baladent en bas dans
Exactement.
Le sanctuaire. Est-ce qu'ils viennent vous parler parfois ensuite, enfin vous descendez après pour échanger
j'ai
avec
vu,
eux
Oui, j'ai vu aussi des visites, j'ai eu des visites aussi d'amis, de collègues. Mais non, j'ai pas encore parlé avec des gens du public, mais peut-être ça pourrait arriver. Je pense que c'est aussi en fonction du programme qu'on choisit, parce qu'on voit une réaction très différente en fonction de la musique. Parfois, on joue quelque chose et les visiteurs qui rentrent dans la basilique restent complètement immobiles, assis. Et c'est aussi un exercice pour comprendre la réaction du public selon les différents styles des musiques qu'on joue aussi selon la façon de jouer. Si on joue rapide, si on joue plus lent, on voit très bien la réaction. C'est très intéressant.
Pour terminer, une question un peu technique concernant le grand orgue de la basilique. Je rappelle qu'il est de construction récente.
Oui.
C'est Jean d'Aldosso, qui est établi d'ailleurs dans notre région, dans le Gers, qui l'a conçu, construit. Mais il a une mécanique de type baroque allemand.
Oui. C'est un instrument qui est aspiré à l'esthétique sonore des orgues baroques allemands. Du coup, on se régale si on joue du Bach ou de la musique allemande. C'est un instrument qui a une mécanique très sensible et une harmonisation vocale et qui permet d'interpréter très bien la musique, toute la musique ancienne, aussi française, parce qu'il y a de beaux jeux d'anches.
Mais j'imagine que c'est encore une expérience très formatrice pour le jeune musicien que vous êtes. Un grand merci, Nicola Procaccini. Je rappelle que vous donnez donc vos moments d'orgue chaque jour à midi à la Basilique Saint-Sauveur, sauf le dimanche parce qu'il y a la messe, je le rappelle encore, et c'est gratuit. Ce soir à 21h, à l'abbatiale de Souillac, le Ténébré Choir est en concert avec son programme A Prayer for Deliverance. Les places peuvent être achetées et réservées en ligne sur le site www.rockamadourfestival.com. Je donne rendez-vous à nos auditeurs demain à 13h25 pour un entretien avec un autre musicien programmé lors de ce festival 2024. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous à l'écoute des programmes de Radio Présence.